Bien, merci. Merci pour votre accueil chaleureux. Je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai de m'adresser à vous pour vous raconter ou vous rappeler quelques souvenirs de ce procès. De ce procès qui visait un individu qui, à votre âge, était un garçon bien sous tout rapport. Klaus Barbie était un jeune garçon qui était au lycée de Trèves, en Allemagne. Il était né en 1913, et à l'âge de 14, 15, 16 ans, c'était un garçon exemplaire. Il était un excellent élève, il faisait des études classiques. Il s'occupait beaucoup, pendant ses loisirs, d'associations caritatives. Il allait visiter les malades dans les hôpitaux. Il participait à des quêtes sur la voie publique pour les plus malheureux. Un garçon bien sous tout rapport. Un garçon exemplaire. Et puis voilà qu'en 1933, il a à ce moment-là 20 ans, la même année, il subit un très grand choc. Il perd successivement son père et son frère aîné unique. Ils étaient deux garçons dans la famille. Le voilà tout seul avec sa mère. Complètement désemparé par ces deux décès successifs. Et là, il va être cueilli par une organisation que l'on appelait les Jeunesses hitlériennes, qui était un espèce de scoutisme organisé par le dictateur Adolf Hitler, dont vous avez entendu parler, et qui prenait ces jeunes en charge. Leur offrait une très grande convivialité, c'était très agréable, on se retrouvait en groupe, c'était charmant, c'était chaleureux, mais dans un but bien précis, c'était de commencer insidieusement un lavage de cerveau pour pouvoir persuader ces jeunes que la doctrine nazie, la doctrine hitlérienne, était la meilleure du monde, que le bonheur était par l'application de cette doctrine, et ainsi faire de ces jeunes, eh bien, de futures machines du projet fou d'Adolf Hitler, et qui s'appelait, vous le savez, la solution finale, qui consistait à éradiquer, à faire disparaître toute une catégorie de population, parce qu'il estimait, cet individu Adolf Hitler, qu'être juif, c'était absolument impensable de pouvoir coexister dans la grande Allemagne qu'il voulait construire. Alors voilà que Klaus Barbie, eh bien, va entrer presque en religion avec cette doctrine, va adhérer à cette doctrine, va être extrêmement zélé dans ses jeunesses hitlériennes, au point qu'on va le repérer en disant « Mais celui-là, il a un très bel avenir au sein de l'organisation nazie ». Et c'est ainsi qu'on va l'envoyer à l'école des SS. Les SS, c'était ce corps d'élite qui était chargé de la sécurité du Reich, qui avait une école de formation, où il va du reste retrouver un dénommé Eichmann, bien connu, puisque ça a été un bourreau nazi des camps de concentration qui a été jugé et condamné en Israël, condamné à mort. Et là, il va devenir, très rapidement, un jeune officier SS. Il prête serment, SS, et à partir de là, il rentre dans l'engrenage. Alors on l'envoie d'abord à Berlin pour faire la chasse aux homosexuels, qui devaient être là aussi éradiqués par le régime. On l'envoie ensuite à Amsterdam, dans les Pays-Bas, où il va organiser les premières rafles de juifs. Et puis, lorsque Lyon est occupé par les nazis, en novembre 1942, on a dû vous expliquer que la France était divisée en deux parties, au nord la zone occupée depuis 1940 et au sud une zone libre, mais qui va être occupée à partir du 11 novembre 1942. À partir du 11 novembre 1942, les nazis occupent l'intégralité du territoire français. Ce qui fait que Lyon, qui avait été en zone libre jusqu'au 11 novembre 1942, devient une ville occupée par les nazis. Alors arrivent d'abord les soldats de la Wehrmacht, les soldats de l'armée régulière allemande, et puis dans les malles de la Wehrmacht arrive ce que l'on appelle la police allemande, que l'on désigne par les initiales le SIPO SD. Et le SIPO SD a une section 4 chargée précisément de la répression des juifs et des résistants, que vous connaissez tous sous le nom de Gestapo. La Gestapo, ce qui fonde l'allemand Geheimstadtpolizei, la police secrète d'État. Et qui va-t-on mettre à la tête de cette Gestapo de Lyon, de cette section 4 du CIPO-SD? Eh bien, ce jeune officier, brillant officier, qui a des notes excellentes au niveau de l'efficacité, on a retrouvé ses notes dans le dossier que l'on a instruit contre lui, et on va lui donner la responsabilité de la Gestapo. Voilà donc ce Klaus Barbie qui arrive à Lyon, qui prend le grade de capitaine, d'Obersturmführer, qui a 28 officiers sous ses ordres et qui règne non seulement sur Lyon, mais sur 8 départements de l'ancienne région Rhône-Alpes, plus le département du Jura, plus le département de Saône-et-Loire. Donc vous voyez que ça fait un sacré nombre de départements. Alors Klaus Barbie arrive, il s'installe à Lyon, il installe d'abord son centre d'interrogatoire à l'hôtel de Château-Perrache, vous savez, ce grand hôtel qui est à côté de la gare de Perrache, mais ce n'est pas assez discret, ses locaux ne lui plaisent pas. Et c'est ainsi qu'il va réquisitionner l'école de santé militaire avenue Berthelot, où se trouve aujourd'hui le CHRD. Certains d'entre vous, m'a-t-on dit, ont visité le CHRD. Et c'est là, avenue Berthelot, qu'il va installer son centre d'interrogatoire. Son centre d'interrogatoire, qui, vous le savez, malheureusement, sont accompagnés systématiquement de tortures. Il va évidemment avoir besoin d'une prison personnelle pour pouvoir mettre les gens qu'il rafle à Lyon et dans la région, à la fois les résistants et les juifs. Et c'est ainsi qu'il va réquisitionner, à partir du mois de janvier 1943, la prison de Montluc, que certains, là aussi, ont visité. Et s'il y a un chiffre que vous devez retenir, c'est qu'entre janvier, fin janvier 1943, jusqu'à la libération de Montluc, fin août 1944, 10 000 personnes arrêtés par les hommes de Barbie, ont séjourné dans cette prison de Montluc. 10 000 personnes. Vous vous rendez compte ce que ça représente? 10 000 personnes qui, bien sûr, n'étaient pas toutes en même temps dans les murs de Montluc. La prison de Montluc n'est pas très importante au niveau des places. Ce qui fait que régulièrement, pendant toutes ces années, la Barbie a un système extrêmement clair. Ce sont ses appels le matin où on va appeler des gens au hasard. Avec une mention, avec ou sans bagage. Lorsqu'on vous appelle sans bagage, chacun comprend ce que ça veut dire, on va vous mettre dans un camion et on va aller vous transporter aux portes de Lyon, à Bron, à Saint-Genis-Laval, dans la vallée de la Zergue, etc. Et on va vous fusiller, sans autre forme de procès. Avec bagage, eh bien, c'est très simple, on vous met dans des cars qui vous emmènent sur un quai de la gare de Perrache. On vous met dans des wagons de voyageurs, pas encore les wagons à bestiaux, c'est les wagons de voyageurs, et vous partez en direction de Paris. Les résistants, ils vont au centre de tri de Compiègne, et là ensuite, ils vont partir dans des camps de concentration en Allemagne, à Mauthausen, à Dachau, à Buchenwald. Et les juifs, eh bien, ils vont être regroupés au nord de Paris, dans un camp qui s'appelle Drancy, qui est un centre de triage, où on forme les sinistres wagons à bestiaux. Vous avez vu des films où on met tous ces gens dans des wagons à bestiaux, et ces wagons à bestiaux vont arriver, eh bien, au sinistre camp d'extermination de Pologne, d'Auschwitz, Birkenau, Auschwitz 1 et Auschwitz 2, où ils vont passer tôt ou tard à la chambre à gaz. Alors voilà ce que va faire ce Barbie terrible pendant, eh bien, toute la période que je viens d'évoquer. Et lorsque Lyon est libéré, le premier souci qu'ont eu les Lyonnais, ça a été évidemment de retrouver Barbie. Mais Barbie est un garçon extrêmement intelligent. Je vous ai dit que c'était un brillant élève, il est resté quelqu'un de très intelligent. Barbie a bien compris qu'à mesure que se libérait la vallée du Rhône, car n'oubliez pas que le 15 août 1944, il y avait eu un débarquement en Provence, et que petit à petit, les villes de la vallée du Rhône étaient libérées les unes après les autres, que les libérateurs remontaient la vallée du Rhône, quand Barbie a compris que Lyon, très rapidement, allait être libéré, il a pris ses jambes à son cou et il a regagné l'Allemagne. Alors, je passe rapidement sur les conditions dans lesquelles on l'a retrouvé en zone américaine, les conditions dans lesquelles les Américains l'ont utilisé comme agent de renseignement. Ce qu'il faut retenir, parce que je n'ai pas le temps de tout évoquer, et c'est que, grâce à des complicités, notamment américaines et d'autres, il va pouvoir quitter clandestinement l'Europe. Il va pouvoir quitter clandestinement l'Europe et il va aller s'établir en Amérique du Sud, en Bolivie. On le retrouve dans les années 50 en Bolivie. Ce qui fait qu'à Lyon, eh bien, on est évidemment très déçu du côté des familles des victimes. On ne va pas pouvoir mettre la main sur Barbie, non pas pour tuer, parce que nous ne sommes pas dans un état où la vengeance est la réponse au crime, pour le faire juger. Un état de droit, une démocratie, c'est pas un état où on va arrêter les criminels et on va les passer par les armes. C'est pas un état où l'on va rendre œil pour œil, dent pour dent, à celui qui a commis un crime, eh bien, ce qu'il a, le dommage qu'il a commis. On recherche Barbie pour le juger, pour qu'un acte de justice, pour qu'un procès puisse se dérouler, pour que justice soit rendue vis-à-vis des victimes. Alors, en l'absence de Barbie, ben, qu'est-ce qu'on fait? On organise un premier procès en 1952. Ce procès vise notamment l'arrestation de 300 malheureux habitants du village de Saint-Claude dans le Jura qu'il a déporté et dont une poignée seulement est revenue. Et on le juge en son absence. On le condamne alors à son absence à la peine de mort. Et puis on recommence 2 ans plus tard avec un nouveau procès pour d'autres crimes qu'il avait commis. En 1954, on le recondamne une deuxième fois à la peine de mort. Mais Barbie se fiche pas mal de ces 2 condamnations à mort parce qu'il est à l'abri en Bolivie. Il a acquis la nationalité bolivienne en utilisant la fausse identité de Klaus Altman. Et il est protégé par un régime de dictateur militaire qui sévit alors en Bolivie. Ce qui fait que Barbie se dit, ben moi je suis tout à fait tranquille, je vais passer plusieurs années tranquillement en Bolivie et on ne pourra absolument rien me faire. Pour une raison très simple, c'est que dans notre droit, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, lorsque vous êtes condamné pour un crime, passez un délai de 20 ans à compter de la condamnation. Si la condamnation n'a pas pu être ramenée à l'exécution, on ne peut plus l'exécuter. Vous êtes condamné à une peine de prison pour un crime, 20 ans s'écoulent, l'État n'a pas la possibilité de vous mettre la main dessus pour faire exécuter cette peine, c'est ce qu'on appelle la prescription. Donc Barbie s'était dit, ben c'est simple, j'ai été condamné une dernière fois en 1954, 1954 plus 20 égale 1974, passé 1974, eh ben je risque strictement rien. Mais il avait fait un mauvais calcul, parce qu'à la fin de la guerre, les alliés, la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc., avaient décidé de créer, d'inventer un nouveau crime, qui s'appelle le crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, c'est un mot qui est quand même un peu fort, crime contre l'humanité. Crime contre l'espèce humaine. Crime que l'on va commettre, en ayant conscience que l'on porte atteinte au principe même d'existence de l'individu. On a dit que le crime contre l'humanité était le crime par lequel quelqu'un reprochait à un autre d'être simplement coupable d'être né. On va décider de supprimer quelqu'un, non pas parce qu'il a commis un acte qui ne vous plaît pas, non pas parce qu'il vous a causé un préjudice, mais simplement coupable d'être né. Puisqu'Hitler avait estimé que les Juifs devaient être éradiqués de l'Europe, puisqu'il fallait détruire toute la population juive d'Europe, et bien tous les gens qui étaient coupables d'être juifs, même s'ils n'avaient rien fait, même si c'était les plus braves des gens, et bien ces gens-là, ils étaient coupables d'être des juifs. Il fallait absolument les détruire. Alors ça, on a dit que c'était un crime contre l'humanité. On a appelé ça un génocide. Et puis, on a dit aussi que même si on n'était pas coupable de génocide, on était coupable de complicité de crimes contre l'humanité, dès lors que l'on avait arrêté des gens, qu'on les avait torturés, qu'on les avait exécutés, qu'on les avait déportés, principalement pour ces considérations d'ordre racial, politique ou religieuse. Donc ces crimes qui avaient été inventés par les Alliés avaient un énorme avantage. Ils étaient imprescriptibles. Ça veut dire quoi? Tant que celui qui les a commis vit, tant qu'il n'a pas rendu son dernier souffle, eh bien, cet individu coupable de crimes contre l'humanité peut être poursuivi, condamné et sanctionné. Même si l'auteur de ces crimes contre l'humanité a 99, 100 ans, etc., mais qu'il vit encore, on peut le poursuivre. Et ça, c'est un énorme avantage. Ce qui fait que Barbie ne pouvait plus se dire, avec ce crime contre l'humanité, au bout d'un certain nombre d'années, je ne risquerai plus rien. Barbie était condamné à se cloîtrer en Bolivie pour éviter d'être arrêté. Alors il a fallu attendre bien longtemps que le régime des dictateurs généraux et colonels de Bolivie soit renversé par un gouvernement démocratique. Je passe sur tous les détails d'identification de Barbie, ça serait trop long pour l'expliquer. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que finalement, le 2 février 1983, la Bolivie a consenti à remettre Barbie à la France en disant « Nous, on ne reconnaît plus M. Barbie comme citoyen bolivien, pour la bonne raison, c'est qu'il a acquis la nationalité bolivienne sous une fausse identité. » Quand vous acquérez une nationalité, si demain vous voulez acquérir une nationalité étrangère et que vous employez une fausse identité, cette acquisition de nationalité, elle n'a aucun... elle est nulle. Hein, bon, parce qu'il a menti. Donc Barbie est remis à la France. Et c'est ainsi que, début février 1983, il est arrivé à Lyon. Alors on l'a incarcéré à la prison de Montluc. Je pense que ceux qui sont allés à Montluc ont vu la cellule de Klaus Barbie, parce qu'on tenait symboliquement que le bourreau soit incarcéré sur les lieux de ses crimes. Et c'est ainsi que Barbie, eh bien, a été incarcéré à son arrivée à la prison de Montluc. Alors, voilà Barbie, dans toute sa splendeur, si l'on peut dire, avec de grands guillemets, de jeune officier SS, vous voyez comme il est brillant, hein. Il n'a pas le faciès d'un tortionnaire, vous savez, il faut se méfier des gens qui vous paraissent bien sous tout rapport comme ça. Il est brillant, il a son bel uniforme de SS. Derrière ce SS, il y a le tortionnaire que l'on connaît. Vous avez le même Barbie qui se fait appeler Klaus Altman et qui a changé d'aspect et qui se trouve en Bolivie. Et puis voilà Barbie qui arrive à Montluc. Cette photo a été prise le soir de son arrivée. Il est arrivé à 20h30 à la prison de Montluc, 8 février 83. Et dans les minutes qui ont suivi, eh bien, il y a eu cette photographie prise par la police judiciaire. Regardez les yeux de Barbie, il est intelligent, il a compris qu'il finira ses jours dans une prison française. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver, et bien sûr, le juge d'instruction de Lyon va lui notifier les inculpations, c'est-à-dire ce qu'on lui reproche. Parce que Barbie, et ça c'est très important de vous le répéter, Barbie va bénéficier de tous les droits que l'on reconnaît à la défense de quelqu'un. Il ne s'agissait pas de réserver à Barbie un sort moins favorable que celui de tout individu qui est poursuivi devant la justice. Tout individu poursuivi devant la justice a le droit d'être assisté d'un avocat. Barbie va donc être immédiatement assisté d'un avocat. Et c'est là où le juge d'instruction va venir lui notifier les trois grands crimes contre l'humanité qu'on lui reproche, pas ceux qui ont été poursuivis en 1952 et 1954 parce qu'on n'avait pas parlé de crimes contre l'humanité et puis on ne peut jamais juger deux fois quelqu'un pour la même chose, mais pour trois crimes contre l'humanité que je vais vous énumérer et qui vont vous montrer à l'évidence que l'on est bien en présence d'un crime contre l'humanité. Le premier crime contre l'humanité qu'on va reprocher à Barbie, il remontait au 9 février 1943. Ce jour-là, Barbie avait envoyé un certain nombre de ses agents monter une souricière dans la petite rue Sainte-Catherine, vous savez, cette petite rue qui se trouve derrière la place des Terreaux, derrière la fontaine des Terreaux, son emplacement actuel. Il y avait là un centre de l'Union Générale des Israélites de France, l'UGIF, qui est une sorte de centre social où les familles juives venaient pour prendre des papiers, prendre de l'aide, notamment pour organiser leur départ vers la Suisse. Car quand Lyon s'est mis à être occupé par les Allemands, le souci des familles juives, c'était évidemment d'aller se cacher. Elles savaient qu'on arrêtait les Juifs. Et Barbie va donc organiser une souricière, c'est-à-dire que c'est une allée, une traboule qui mène à une montée d'escalier. À mesure que des Juifs arrivent pour se rendre à ce centre social, il y a des gens qui les empoignent, qui les mettent dans des voitures, et c'est comme ça qu'en 1h30 de temps, on arrête 86 personnes. 86 personnes qui vont aller où ? Ben, vous l'avez deviné, vers les camps de concentration. On va les mettre dans les wagons, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ils vont partir, comme ils sont des Juifs, à Drancy, et à Drancy, eh bien, on va tout simplement constituer ces convois dans les wagons à bestiaux à destination d'Auschwitz-Birkenau. premier crime contre l'humanité. Évident. Les gens qui ont arrêté Barbie, ils étaient simplement coupables d'être des juifs. Deuxième crime contre l'humanité que l'on va reprocher à Barbie, le 11 août 1944, Barbie va aller à la prison de Montluc et va prendre au hasard 500 détenus, des juifs et des résistants. Il va les mettre dans des camions et il va les diriger vers un convoi ferroviaire, un train, qu'il a préparé sur les quais de la gare de Perrache. Il en prend 150 autres aux prisons Saint-Paul et Saint-Joseph à côté de Perrache, également des juifs et des résistants, au total 650 voyageurs. 650 voyageurs de ce véritable train de la mort qui va partir. Alors il va s'arrêter à Strasbourg, où on va débarquer tous les hommes résistants qui vont aller vers le camp alsacien du Struthof en Alsace, l'unique camp de concentration que nous ayons eu en France. Le train va repartir, il va s'arrêter à Berlin, où on va descendre toutes les femmes résistantes qui vont aller au camp de concentration de Ravensbrück, et il va finir sa course, eh bien, à Auschwitz-Birkenau. Le seul train de voyageurs qui est arrivé à Auschwitz-Birkenau, c'est le train de Klaus Barbie, le 11 août 1944, les autres, c'était encore une fois des wagons à bestiaux. Crime contre l'humanité, vous l'avez bien compris. C'était pas des combats au cours d'une guerre, c'était pas des échanges de coups de feu au cours d'un combat guerrier. On est en présence d'un crime contre l'humanité. Deuxième crime contre l'humanité qu'on reproche à Barbie. Troisième crime contre l'humanité, voilà, vous le connaissez, vous y êtes allé. 6 avril 1944. Barbie, qui à la suite d'une trahison, d'une dénonciation, a appris dans ses bureaux lyonnais qu'il y a dans ce petit village de Lain qui s'appelle Isieux, sur les hauteurs du Rhône, une colonie d'enfants juifs, décide bien sûr d'aller arrêter tous ces enfants juifs. Et le 6 avril 1944, alors que ces enfants sont en train de prendre un petit déjeuner, arrivent des agents de Klaus Barbie, puisque Klaus Barbie n'était pas sur place, Klaus Barbie commande, il n'est pas toujours sur place, vont arrêter ces 44 enfants, vont les amener ici, à la prison de Montluc, où ils vont passer la nuit. Dès le lendemain, ils sont mis dans un train à destination de Drancy, et dans les jours qui vont suivre, ils vont tous partir vers le camp de Birkenau, Schwitz-Birkenau, où ils seront, sans exception, tous exterminés. Le plus jeune de ces enfants avait 4 ans. Ça vous montre bien que le crime contre l'humanité, c'est véritablement faire disparaître quelqu'un. Faire disparaître un homme de la communauté des hommes parce qu'on ne tolère pas sa présence. Uniquement par idéologie, uniquement par fanatisme. Ces gamins de 4 ans, ils ne présentaient aucun danger pour le Troisième Reich, ils ne présentaient pas de danger pour l'Allemagne. Eh bien, ces gens-là, ces gamins de 4 ans, on a décidé qu'on les supprimerait simplement parce qu'ils ne plaisaient pas à la doctrine nazie de conserver des enfants de toute personne qui était juive. Donc, à partir de là, on a monté un procès. C'est-à-dire que sur ces trois grands crimes contre l'humanité, eh bien, on a organisé un procès qui s'est déroulé à Lyon, au palais de justice des 24 colonnes. Alors, il y a eu un gros problème, c'est qu'il y avait une telle foule qui voulait assister à ce procès. 650 journalistes avaient demandé d'assister au procès. Des centaines de personnes voulaient assister au procès. C'était extrêmement compliqué. On n'a pas pu organiser ce procès dans la salle de la cour d'assises, parce que la cour d'assises, où on juge à longueur d'année les crimes, eh bien, elle est beaucoup trop petite. Et on n'a pas voulu non plus quitter le palais de justice, car il fallait que Barbie soit jugé symboliquement comme tout criminel au même endroit. Donc on a organisé dans la grande salle des pas perdus du palais de justice, dans l'atrium du palais de justice, une salle d'audience. On a organisé une salle d'audience, là voilà. Vous voyez, vous avez au fond l'entrée classique de la cour d'assises, et on a installé dans cet atrium une salle d'audience avec en bas les sièges pour les journalistes. On a construit une mezzanine tout autour, vous en voyez un petit bout, tout autour au niveau du premier étage. Et on a construit cette tribune, parce qu'il y avait à gauche donc le ministère public, c'est-à-dire le procureur général et moi-même, à gauche en haut, devant une partie des 39 avocats des parties civiles, et à droite, le box où Klaus Barbie allait comparaître. La photo est prise avant que l'on installe la cage de verre, la paroi de verre exactement, qui devait éviter évidemment tout risque de personnes qui auraient voulu tirer en direction de Klaus Barbie. Et devant lui, bien sûr, son avocat, Maître Vergès. Donc ce procès va se dérouler eh bien, à Lyon à partir du 11 mai 1987. Voilà l'ouverture du procès. Le président Servini, je crois que son petit fils est là, il va ouvrir le procès.
Mesdames, messieurs, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît.
Traductrices, puisque Diane Barbie parle parfaitement le français, on avait absolument voulu que des traductrices soient à ses côtés pour pas qu'ils prétendent qu'ils ne comprenaient pas tout ce qui se dirait. Et le procès a commencé. Et le procès a commencé, on a donc interrogé Barbie sur sa vie, on a fait défiler des experts psychiatres qui sont venus nous dire que Barbie était d'une intelligence tout à fait largement au-dessus de la moyenne, qu'il n'avait aucune anomalie psychiatrique. Et puis arrive le troisième jour, où là, on va assister à un incident. À 3h de l'après-midi, Barbie prend un papier que lui a tendu devant lui son avocat, déplie ce papier, dit « Monsieur le Président, je souhaite prendre la parole. » « Ah bon ? Eh bien, on vous donne la parole. » Et Barbie vient dire « Eh bien voilà, j'estime que je suis citoyen bolivien, que j'ai été victime d'un véritable enlèvement, que je n'ai rien à faire sur le territoire français, que je n'ai pas à répondre à la justice française, en foi de quoi, je demande à regagner ma cellule à la prison et je ne veux plus assister à mon procès. » Vous vous imaginez le scandale dans la salle. Vous vous imaginez les victimes qui avaient déjà subi en 1952 et 1954 deux procès où Barbie était absent, puisqu'il nous faisait le pied de nez depuis la Bolivie, et qui apprenait que M. Barbie ne voulait pas assister à son procès. Alors, qu'est-ce que l'on allait faire ? Alors, il y avait deux solutions. On allait imposer à Barbie d'assister de force à son procès. Première solution, la plus idiote, la plus facile, on ordonnait à la police d'amener Barbie chaque jour par la force au palais de justice et de le forcer à assister à son procès. Ce n'est pas la solution qu'on a retenue. Parce que notre code de procédure pénale, c'est-à-dire le code qui organise les procès, permet à toute personne de ne pas assister à son procès. Tant pis pour lui s'il ne veut pas assister à son procès. Il sera condamné en son absence. On ne peut imposer à quelqu'un d'assister à son procès que si sa présence physique est nécessaire à la manifestation de la vérité. Si par exemple on doit le confronter avec un témoin, on doit le confronter avec une victime. Ce qui fait que, on a dit, M. Barbie, en 1942, 43, 44, vous ne demandiez pas aux gens que vous interrogiez dans les locaux de la Gestapo s'ils avaient le droit de regagner leur cellule. La grandeur d'un état de droit, la grandeur de la justice d'un pays démocratique, c'est de vous offrir tous les droits reconnus à un accusé ordinaire. Vous êtes un accusé ordinaire. Vous êtes jugé par une cour d'assises composée de citoyens ordinaires, vous n'êtes pas jugé par un tribunal spécial, vous n'êtes pas jugé par un tribunal militaire. Le code de procédure pénale s'applique à tout le monde, puisqu'on permet à un accusé de ne pas assister à son procès. Eh bien nous, quelle que soit l'horreur des crimes que vous avez commis, eh bien on vous reconnaît le droit reconnu à tout un chacun, et on ne vous fera revenir de force que s'il y a besoin de confrontation avec des témoins. Et c'est ainsi que Barbie est rentré dans sa prison, qu'il est revenu de force deux fois, parce que pendant deux jours, durant le reste du procès, il a été utile de le confronter avec des témoins, et que l'on l'a fait revenir une troisième fois pour entendre le verdict, car il était impensable que le verdict soit prononcé devant une chaise vide. Et ça, on l'a expliqué aux témoins, aux victimes. Et on l'a dit aux victimes, vous voyez, la dérobade de Barbie, c'est votre plus grande victoire. Barbie est un nazi honteux qui n'a pas voulu s'expliquer devant vous et qui vous méprise tellement qu'il ne tient pas du tout à assister à ce qui va être dit. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous avez certains qui ont dit « Mais le procès Barbie, il n'y a plus à rien ». Vous avez même, je me souviens, des journalistes brésiliens qui avaient repris l'avion en disant « Mais le procès Barbie, il est fini ». Procès Barbie, il est fini, la bête a quitté l'arène, Barbie n'est plus là. Surtout que son avocat, très habilement, pour maintenir le suspense, annonçait tous les matins que Barbie allait révéler l'individu qu'il avait renseigné de la fameuse réunion de Caluire, qui réunissait les plus grands résistants autour de Jean Moulin, et qui avait permis à Barbie d'aller arrêter Jean Moulin. Donc tous les matins, Maître Vergès disait « Attention, aujourd'hui, monsieur Barbie, vous allez voir, messieurs les journalistes, Barbie va révéler qui a trahi, qui l'a renseigné sur la réunion de Caluire où il a débarqué pour arrêter Jean Moulin et ceux qui y participaient. » Ce qui était évidemment de l'intox, parce que jamais Barbie n'a consenti à dire quoi que ce soit. Donc nous, on savait que Barbie, de toute façon, ne dirait rien. Eh bien, il y a des journalistes qui sont partis en disant ben, « Comme Barbie n'est plus là, le procès perd tout intérêt. » Eh bien, ils se sont trompés. Et la meilleure preuve, c'est qu'ils sont revenus quelques jours plus tard. Parce qu'à partir de ce moment-là, le procès Barbie est devenu le procès des victimes. Est devenu le procès au cours duquel on a assisté à quelque chose d'inouï, des victimes qui jusqu'alors n'avaient jamais osé parler, des victimes qui jusqu'alors n'avaient jamais osé exprimer publiquement ce qu'elles avaient subi pendant cette période terrible, eh bien, se sont dit, il faut parler. Moi, je me souviens dans l'après-midi où est arrivée une dame, une victime de Barbie, qui m'a dit, monsieur, donnez-nous quelques places assises pour mes enfants et mes petits-enfants, car ce que je vais dire cet après-midi devant la cour d'assises, je n'ai jamais encore osé le dire à mes enfants. Vous imaginez, 30 ans. Eh bien, lorsque je leur demandais souvent le soir, mais pourquoi vous n'aviez jamais parlé jusqu'alors ? Eh bien, certains vous disaient, quand on est rentré des camps de concentration, nous n'étions plus une poignée de survivants, ce que nous avions subi était tellement impensable qu'on craignait que l'on nous prenne pour des mythomanes, que l'on exagérait, que l'on craignait que l'on dise cela pour nous faire plaindre, pour prendre un statut de victime. D'autres disaient, ce que l'on a subi a touché tellement notre intimité, notre personnalité, notre intimité, notre pudeur, que nous n'avons pas osé parler. Eh bien, tous ces gens-là se sont dit, si aujourd'hui, à l'occasion du procès Barbie, où pour la première fois en France, on allait juger le crime contre l'humanité, un individu coupable de crime contre l'humanité, si nous ne parlons pas à ce moment-là, jamais plus, nous ne trouverons une occasion semblable pour parler. Et c'est ainsi qu'on a dit que le procès Barbie a été le procès de la victoire sur l'indicible. Vous savez, l'indicible, ce que l'on ne peut pas dire, ce qui ne se dit pas, ce qui ne peut s'exprimer. Eh bien, le procès Barbie a été la victoire sur l'indicible. Alors, il y a eu des témoignages bouleversants. Certains, je pense, en ont vu. Vous l'avez dit, monsieur le professeur, vous avez vu un certain nombre de ces témoignages. Je ne vais pas vous les repasser. Je voudrais vous en passer deux ou trois, mais très bref, des petits extraits. C'était des témoignages, évidemment, bouleversant, lorsque les gens venaient donner les détails des tortures les plus affreuses qu'ils avaient subies, c'était évidemment bouleversant. Lorsque des gens revivaient à la barre, et très difficilement, ce qu'ils avaient vécu dans les camps de concentration, c'était très bouleversant. Et puis il y a eu cette journée qui a été consacrée à l'affaire Dizieux. Alors l'affaire Dizieux, il restait qui de l'affaire Dizieux ? Il resterait notamment la directrice, Madame Sabine Slatin, cette directrice qui n'était par bonheur pour elle, pas présente au moment où il y a eu la rafle, parce qu'elle était partie à Montpellier chercher un endroit pour aller se réfugier avec ses enfants. Car ce que vous devez savoir, c'est que Isieux, lorsque les Allemands ont occupé la zone sud, le sud de la France, Lisieux, avec le département de la Savoie et quelques autres départements à l'est, n'ont pas été occupés par les Allemands, mais par les alliés des nazis, qui étaient les fascistes italiens. Ce qui fait que, comme les Italiens, eux, toléraient les Juifs, les colonies juives du sud de la France, notamment de la région de Montpellier, d'où venait la colonie d'Isieux, eh bien, c'est dit, on va se réfugier en zone italienne, et là, on sera à l'abri. Le problème, c'est que, au mois de septembre 1943, Mussolini a été renversé, que le fascisme italien a disparu de la carte en France, et que les Allemands, bien évidemment, ont pris la place des Italiens. Ce qui fait que la colonie d'Isieux, à partir de septembre 1943, elle était en péril de mort. Elle était en péril de mort, et malheureusement, je pense qu'on n'a pas pris suffisamment conscience de ce danger. Madame Zlatin s'en est rendu compte au début de l'année 1944, et en ce 6 avril 1944, elle était partie à Montpellier pour tenter de trouver un endroit. Elle ne savait plus où aller avec ses gamins. Alors elle en plaçait, hein. On a vu beaucoup de photos, vous avez vu beaucoup de photos des enfants d'Isieux, ceux qui ont visité Isieux. Tous ces enfants que vous avez vus ne sont pas tous morts, il y en a eu 44, heureusement. Parce qu'à Isieux, c'est pareil, on restait un mois, deux mois, trois mois, dans l'attente de trouver une famille qui acceptait de recueillir ses enfants. C'est une famille que l'on décore aujourd'hui du titre de juste. Les justes, c'est qui? Ce sont ces gens qui ont pris le risque inouï de cacher des Juifs pour pouvoir les sauver de la mort certaine. Donc Mme Slavine Slatin n'était pas là, alors elle a survécu, donc on l'a entendu. Et puis il restait une monitrice, Mme Léa Fenblum, qui avait accompagné ses gamins jusqu'à l'entrée du camp d'Auschwitz, qui par bonheur, on se demande comment, est passée à travers, et elle a vu partir les enfants vers le four crématoire. C'est elle qui a pu donner ce témoignage. Alors, témoignage de Mme Zlatin, cette directrice qui s'en voudra jusqu'à la fin de ses jours de ne pas avoir protégé ses enfants alors qu'elle n'y est pour rien, a fait un très bon témoignage. Je voudrais vous donner, écoutez.
C'est avec un quel serait que je vous raconter l'histoire de la maison d'Isieux. Avant toute chose, j'aimerais exprimer ici aux mères, aux parents, aux cousins, tantes, oncles, ma profonde douleur que je partage avec eux. J'arrive tout de suite à la rafle des 6 février, 16 avril 1944. J'étais pas là. J'étais à Montpellier. Et la maison était déportée. Les enfants jetés comme des paquets vivants dans les cars. Quarante-quatre enfants, leur éducateur et mon mari. Le 6 avril, j'étais chez mon ami Berthe Weber, 61 pour Gambetta, Montpellier. J'ai déjeuné chez elle. On m'a apporté un télégramme. Famille malade, maladie contagieuse. Sans signature. J'ai compris que ça passait certainement par la sous-préfecture parce qu'ils savaient où je me trouve toujours, ils avaient mon adresse. Alors, je suis allé à Vichy le soir même. Et dans mon uniforme d'infirmière, avec ma carte où les mots juifs n'étaient pas mentionnés. J'étais reçu par un haut fonctionnaire, je ne peux pas vous dire qui c'était, mais c'était un très beau bureau. Et je lui ai raconté la tragédie d'Isieux. Et je lui ai demandé, monsieur, si vous pouvez faire quelque chose pour ces enfants. Faites-les. Il est sorti de la pièce, il allait dans une autre pièce. Et il est revenu en disant, pourquoi vous vous êtes occupé de ces saloupins? M'a cloué. Je veux vous dire, et je veux dire surtout à la défense de Barbie, que Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire des ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants? C'était des maquisards? Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents!
Voilà un témoignage de bouleversant, de très bouleversant de Madame Zlatin, la directrice, qui a donc raconté, bien sûr, je ne vous passe qu'un extrait. Cette photo n'est pas très bonne. C'est la seule photo que l'on ait des enfants qui ont disparu, une partie des 44 enfants qui ont disparu. Les autres photos, vous voyez dans les livres, les très belles photos, sont des photos de groupes d'enfants qui, heureusement, étaient partis avant le 6 avril 1944. La seule photo que l'on ait, une partie des 44 enfants, elle a été prise quelques semaines avant le 6 avril, et bien c'est celle-là. Pensez que tous ces enfants, coupables d'être des juifs, ont disparu dans les conditions que vous connaissez maintenant. Alors, il y a eu d'autres témoignages, il y a eu des témoignages évidemment de résistants. Ces résistants qui, certains ont survécu, alors évidemment, on voyait arriver de vieilles personnes, on avait du mal à s'imaginer que c'était des résistants qui avaient 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, qui étaient tout jeunes et qui ont dit dans quelles conditions ils ont été arrêtés par Barbie et torturés. Je ne veux pas passer tous ces témoignages. Je pourrais peut-être vous passer le témoignage d'une jeune juive de 13 ans qui a été arrêtée par Barbie, qui voulait simplement lui faire avouer où se trouvaient son petit frère et sa petite sœur, ses deux autres frères et sœurs, pour pouvoir les arrêter également, et qui, d'une manière assez...
J'ai été arrêtée le 6 juin 1944 chez moi, sur dénonciation d'une Française. J'étais arrêtée par un homme de Goldsmann, qui était chez nous et qui venait nous chercher, mon père, ma mère et moi. Nous avons été emmenés à la Gestapo qui se trouvait place Bellecour à Lyon, puisque l'ancienne Gestapo avait été bombardée le 26 mai 1944. Vous savez, c'était le 6 juin 1944, c'était le jour du débarquement, c'était pour nous un jour de joie. Ça a été un jour de joie au début, mais ça n'a pas été la même chose le soir. On a attendu environ un quart d'heure, et puis la porte du fond s'est ouverte, et Barbie, enfin je ne savais pas, c'était son nom à ce moment-là, bien sûr. Barbie est rentré dans cette salle. Il était habillé en gris. Vous savez, ce sont des détails qui choquent un enfant de 13 ans. Il était habillé en gris et il avait un chat dans ses bras, qu'il caressait. Je dois dire que pour une petite fille de 13 ans, lorsqu'on voit un homme qui caresse un animal, on n'en a pas vraiment peur. J'ai pensé que cet homme ne pouvait pas être méchant. Pourtant, j'avais l'appréhension d'avoir été arrêtée. Vous savez, on savait très bien qu'on arrêtait les Juifs, qu'on les emmenait dans des camps, on pensait que c'était des camps de travail. On savait qu'il y avait des fusillades aussi, mais on ne s'imagine jamais que ça peut nous arriver à nous. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est vrai que lorsque j'ai vu Barbie, je ne me suis pas vraiment apeuré, si vous voulez. Je n'ai pas eu peur de cet homme. Un peu anxieuse, c'est tout. Il est arrivé en caressant ce chat. Il est allé vers mon père, qui était assez imposant de taille. Il l'a regardé des pieds à la tête sans dire un mot. Puis il est allé voir maman avec un petit sourire pincé. Puis il est venu me voir, il m'a caressé la joue. Il a dit que j'étais jolie. Et comme ça, d'un seul coup, il se retourne et dit à maman, « Vous avez d'autres enfants ?» Et ma mère était une mère fière de ses gosses et elle a dit, « Oui, j'ai deux autres enfants plus jeunes qui sont à la campagne. » Il lui a demandé où se trouvaient les gosses. Maman a répondu que les enfants étaient partis au moment du bombardement de Lyon et qu'elle n'avait pas encore leur adresse, ce qui était vrai d'ailleurs. Barbie est venu vers moi, il m'a posé la même question une fois de plus. J'étais comme maman, je ne pouvais pas répondre. Il est parti, il a posé son chat sur la table, il est revenu vers moi, il m'a reposé encore une fois cette question. Vous savez, 42 ans après, ça semble absurde, on se pose des questions, on se demande pourquoi. Pourquoi comme ça s'acharner pour avoir l'adresse, le nom de deux gosses. Mais ça, c'est 42 ans après. Dans le contexte, c'était tout à fait différent. Les petites filles à cette époque avaient des cheveux très très longs, mais c'était aussi mon cas. Les cheveux étaient enroulés dans une résille. Pour les personnes qui ont connu cette époque, ça va leur rappeler quelque chose. Barbie a tiré sur la résille et mes cheveux se sont écroulés sur mes épaules. Et à ce moment-là, il a roulé mes cheveux dans sa main. Et il a tiré de toutes ses forces et j'ai pris la première paire de claques de ma vie. Et puis ça a continué. Il m'a frappé en posant toujours la même question, demandait l'adresse des enfants qu'on ne pouvait pas lui donner. Mon père a essayé de s'interposer, mais on lui a mis un revolver sur le ventre et donc il a fallu qu'il subisse les coups que j'avais reçus. Mes tortures ne sont pas celles des personnes qui sont passées avant, mais elles en sont pas moindres. C'était celles qu'on a infligées à une gosse de 13 ans devant ses parents. Vous savez, ce sont des choses qui nous restent en nous, ce sont des souvenirs qui nous restent pour toujours. Ça a duré une demi-heure à peu près. Et puis, on est parti en voiture, on est allé à Montluc. Mon père a été emmené à la baraque des Juifs, et ma mère et moi, nous avons été descendus dans une cave. Ça semble bête. J'avais peur de cette cave parce qu'il y avait de la paille, et j'avais peur qu'il y ait des rats. C'est encore des idées de gosse. J'ai regardé par un soupirail toute la nuit. Cette nuit-là, des camions sont arrivés. Et de ces camions, je voyais par ce soupirail. De ces camions, j'ai vu descendre des familles entières de juifs qui avaient été arrêtés. Et je me suis posé des questions, bien sûr, on se pose des questions à 13 ans. Le lendemain matin, en nous avons mis maman et moi dans la même cellule. Et puis vers 9h du matin, s'attacher à la recherche de deux enfants uniquement, au point de martyriser une troisième gosse. Ça, c'est vraiment insupportable. Je dois dire que il arrivait, avec son sourire mince, comme ça, comme une lame de couteau, il me posait la question, il me frappait. Il me frappait à coups de poing, à coups de pied. Il m'a fichu par terre combien de fois et relevé à coups de pied. Il m'écrasait la figure à coups de poing sur les plaies qui étaient déjà à peine enfermées de la veille. Je dois dire que ça a duré 7 jours, environ, cette petite sérénade. Pendant ces 7 jours, c'était sans arrêt des coups là où les plaies étaient déjà refermées. Et le sang coulait de plus belle. On a parlé de torture, Monsieur le Président. Je crois que la torture morale, c'est pire que tout. Le premier soir, il m'a ramené à la cellule lui-même. J'étais en sang, j'avais la figure enflée, pleine de sang, les cheveux collés, vous savez, quand on a les cheveux très longs, ça colle et à la transpiration de mon sang. Il a appelé ma mère, de nouveau sur le pas de la cellule, et il m'a jeté contre elle en disant « Voilà ce que tu as fait de ta fille. » Je crois que cette morale-là, personne ne peut dire. Cette torture-là, il n'y a pas de morale qui puisse exister, excusez ça.
Bon, je ne vais pas aller plus loin dans ce témoignage. Sachez que Madame Lagrange a été donc déportée avec son père, sa mère et elle, et que son père et sa mère sont morts en déportation. Elle seule a survécu. Voilà un témoignage parmi d'autres. Et pendant un mois et demi, c'était une succession de témoignages se ressemblant très souvent. Je voudrais vous passer un dernier extrait. C'est celui d'un grand écrivain qui s'appelait André Frossard, qui était lui à la fois juif et résistant. Il avait été arrêté, il n'a jamais su s'il avait été arrêté d'abord parce qu'il était résistant ou d'abord parce qu'il était juif. Toujours est-il qu'on l'a mis dans la baraque aux juifs à Montluc et que curieusement il y est resté 9 mois et qu'il est passé à travers les différents appels avec ou sans bagages qu'il y avait le matin. Et André Frossard va, écoutez-le bien, dire ce qu'il pense être. Comment on qualifie ce qui est un crime contre l'humanité? Écoutez bien.
Bon, je viens de jurer de parler sans crainte. Ça ne sera pas difficile, et sans haine. C'est un sentiment que je n'ai jamais connu de ma vie. Je ne viens d'ailleurs pas témoigner pour moi-même, mais à la demande d'une partie civile, la fille du professeur Gompel, qui est mort devant moi à Montluc. Mais avec votre permission, Monsieur le Président, je voudrais dire aussi un mot de Montluc et de cette baraque aux Juifs dont on a parlé quelques fois, mais pas beaucoup, parce que le nombre des survivants est très faible. Je me demande même certains jours si je ne suis pas le dernier. J'ai commencé à comprendre alors vraiment ce que c'était que le crime contre l'humanité par l'exemple d'un détenu, un Juif, un brave homme, le genre Bonnetier de la rue des Rosiers, enfin, un homme simple et bon, et qu'un sous-officier avait pris comme tête de Turc, et auquel il avait enjoint d'apprendre la phrase suivante. Le juif est un parasite qui vit sur la peau du peuple arien, et il faut l'extirper. La phrase était à apprendre en allemand, et il ne parlait pas l'allemand. Chaque syllabe lui posait une difficulté qui lui valait, bien entendu, à chaque fois des coups de poing et des coups de pied dans le ventre. Puis il avait fini par apprendre tout de même la phrase en entier, à force de coups. Et il la récitait de lui-même. Et dès qu'il entendait la porte de la baraque s'ouvrir, même quand il était au fond, il commençait à dire « Le juif est un parasite ». C'est ça l'humiliation de l'être. Et le jour où on l'a emmené pour le fusiller avec d'autres otages, le même sous-officier, sur le pas, sur le seuil de la porte, dans la cour, devant les soldats allemands, l'a obligé à répéter une dernière fois, le juif est un parasite qui vit sous la peau du peuple arien et il faut l'extirper. Et il l'a récité. Et à mon avis, le crime contre l'humanité, c'est cela. C'est d'abord de tuer quelqu'un pour le seul motif qu'il est né, qu'il est venu au monde. Il n'y a pas d'autre grief contre lui. Il est venu au monde contre la doctrine. Il n'a pas le droit d'exister. Mais il faut encore que cette mise à mort soit précédée d'une tentative d'humiliation, d'abaissement, d'avilissement de la personne. Le crime contre l'humanité se distingue du crime de guerre ou de toute autre forme de crime par ces deux éléments-là, à mon avis. C'est pourquoi ce procès me paraît si important, non pas à cause de la personne de Barbie, qui n'était pas un grand personnage dans l'échelle de l'oppression et de la violence ou de la terreur, mais parce que c'est la première fois qu'un tribunal, je crois à ma connaissance, a l'occasion de juger à partir de la notion de crime contre l'humanité, alors que jusqu'ici, on a jugé des crimes de guerre ou des génocides. Il y a quelque chose de plus dans le crime contre l'humanité. Et puis, il est important aussi que ce tribunal statue, car il faut éviter que ne recommence cette période. J'ai vu et je crois avoir compris comment on fait les barbies. Les barbies, en général, sont des médiocres qui ont donné leur conscience au parti, mais totalement. Qui ont fait abdication totale de leur conscience personnelle propre. Elle est mise en dépôt au siège du parti nazi et on ne la recouvre jamais. En échange, le parti vous désigne le bien et le mal et il vous donne le pouvoir, un pouvoir de vie et de mort sur votre semblable. L'abandon de votre conscience vous vaut ce surcroît de puissance que vous n'obtiendriez jamais par vos propres moyens. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pourquoi les barbies en général ne manifestent aucune espèce de regret ni de repentir. Ils n'ont jamais récupéré leur conscience. Elle a été enfouie dans les décombres du bunker de Berlin où Hitler est mort. Et ils ne la reverront jamais.
Voilà, vous avez bien compris comment on fabrique les barbies. On abandonne sa conscience du bien et du mal, on abandonne toutes ses valeurs morales de respect des autres en échange de cette adhésion à ce parti. Le parti confisque votre conscience, a dit André Crossard, et en échange de quoi il vous donne ce surcroît de puissance pour avoir la possibilité eh bien, de faire ce que vous voulez sur vos semblables, surcroît de puissance que vous n'auriez jamais eu vous-même, si on ne vous l'avait pas offert, et c'est le parti qui, à votre place, eh bien, définit ce qu'est le bien et le mal. Dernier extrait que je vais vous passer, il est très bref, c'est le verdict. C'est à l'issue d'un mois et demi de procès, la décision des jurés qui ont estimé que Barbie était bien coupable de crime contre l'humanité, le prononcé du verdict, et après quoi, j'y tiens beaucoup, nous allons avoir le temps de revenir sur tous les points que j'ai abordés très rapidement et de répondre à toutes les questions que vous souhaiterez me poser. Mais on va d'abord écouter le verdict.
La Cour l'audience est reprise. Vous introduisez l'accusé, s'il vous plaît. C'est-à-dire à toutes les questions qui portent le numéro 1 jusqu'au numéro 340, dont j'ai donné lecture tout à l'heure, il a été répondu oui à la majorité de 8 voix au moins. à la question numéro 341. Existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé Klaus Barbie? Il a été répondu non à la majorité de 8 voix au moins. Attendu que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le jury sont prévus et réprimés par les articles déjà cités du Code pénal, condamne à la majorité Klaus Barbie à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et le condamne également aux dépens. Klaus Barbie, vous disposez de 5 jours francs pour vous pourvoir en cassation. Passez ce délai de 5 jours, votre pourvoi ne sera plus recevable.
Voilà, le verdict qui a été rendu, c'est-à-dire que l'on a fait connaître à Barbie qu'il disposait, comme tout le monde, du droit de ce pourvoi en cassation, ça veut dire d'aller à Paris dans la Cour de cassation pour estimer que les règles de droit n'avaient pas été respectées à l'occasion de ce procès et qu'il convenait de casser la décision de réclusion criminelle à perpétuité qui avait été rendue. Vous avez, évidemment, nous avons eu un pourvoi en cassation, Barbie s'est pourvu en cassation, son pourvoi a été rejeté parce qu'encore une fois, on avait respecté très strictement les règles de procédure comme je voulais indiquer. Barbie a donc subi sa peine, il était atteint déjà d'un cancer en 1987 et il est mort 3 ans plus tard. En 1991, il a été soigné comme tout détenu, tout à fait normalement. Dans les dernières semaines, il a été transféré à l'annexe pénitentiaire de l'hôpital Lyon-Sud de Jules Courvon, où il a été soigné exactement comme tout malade, et il est décédé en 1991. Voilà comment s'est terminée l'affaire Barbie, un procès en bonne et due forme. Une décision rendue par des citoyens jurés tirés au sort, puisque vous savez que vos cours d'assises sont composés de citoyens jurés tirés au sort. Je suis sûr que parmi vous, demain, il y en aura certains d'entre vous qui seront jurés d'assises, dès lors que l'on a 23 ans et qu'on est inscrit sur la liste électorale. Et encore une fois, la justice est passée. Il fallait que lorsque la France devait prononcer pour la première fois de son histoire le crime contre l'humanité, elle le fasse à l'issue d'un procès où toutes les garanties, encore une fois, soient données à celui qui était poursuivi. Voilà ce que je voulais vous dire, trop rapidement, trop imparfaitement, parce que le temps me manque pour rentrer dans les détails. Mais je voudrais maintenant répondre aux questions, puisque j'ai vu tout à l'heure que vous m'aviez... Oui, je suis aux côtés du procureur général Truche. Bien sûr, j'étais chargé, j'assistais le procureur général Truche à l'accusation. Nous étions deux sur le siège de l'accusation, bien sûr. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai vu... Oui.
Question derrière.
Oui. Pardon. Eh bien, j'avais 38 ans. Oui. Oh, il y en a plusieurs, bien sûr. Il y a le témoignage de Madame Cadoche Lagrange. Vous avez vu cette jeune femme. Je vous en ai montré qu'un petit morceau extrêmement émouvant. Il y a eu d'autres personnes, d'autres femmes victimes de Barbie, certains résistants, résistantes qui ont exposé les tortures qu'ils avaient subies, bien sûr. Mais la partie relative aux enfants des yeux est une des parties les plus émouvantes. Bien sûr qu'il y a eu quelques témoignages. Tous les témoignages avaient leur particularité. Alors il y avait des témoins qui s'exprimaient mieux que d'autres, moins bien que d'autres, faisaient passer leur émotion plus ou moins bien que d'autres, bien sûr. Mais tous les témoignages ont eu leur intérêt, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on voit Klaus Barbie pour la première fois? Ben d'abord, on connaît le dossier, on connaît ce qu'il a fait, et on se retrouve devant un brave grand-père. Vous avez vu, Barbie, il n'a pas... On se retrouve devant un brave grand-père extrêmement poli, parce que Barbie est un SS, donc il respecte l'autorité. Donc vis-à-vis de nous, magistrats, il était extrêmement courtois, d'une politesse, je dirais, presque exquise. C'est comme il ne regrettait rien, et qu'il estimait qu'on le poursuivait abusivement, alors qu'il n'avait fait que servir son serment de fidélité à Hitler et de respecter les ordres d'Hitler. Il n'avait donc aucune culpabilité et il voulait toujours donner l'image d'un SS brillant, d'un SS poli, le bel SS que vous avez vu tout à l'heure en uniforme sur la photo que je vous ai montrée. Donc, le premier sentiment qu'on a en se disant, mais comment se fait-il que cet homme qui paraît être si poli, qui paraît être si policé, qui paraît être un vieillard distingué, vous avez vu, quand on prononce le verdict, son souci, il réajuste sa cravate. Hein, il réajuste sa cravate. Il voulait porter beau. Hein, il voulait montrer que... Et on se dit, mais comment cet homme a pu commettre ce qu'il a commis? Et c'est là où j'ai acquis la conviction que l'on ne naît pas tortionnaire, mais qu'on le devient. C'est ça le drame. On n'est pas, à la naissance, déjà prédestiné à être un tortionnaire, un fanatique. On devient fanatique parce que malheureusement, on tombe dans le piège de la croyance dans le fanatisme. Quand vous avez aujourd'hui des jeunes de 20 ans qui acceptent de se mettre une ceinture d'explosifs et d'exploser au milieu d'une foule en essayant de faire le plus grand nombre de morts autour de soi, ces gens-là ne sont pas nés fanatiques, ils le sont devenus. C'est ça le drame du fanatisme. Daesh aujourd'hui, c'est le même procédé que les jeunesses hitlériennes. On endoctrine des jeunes dans une doctrine folle et on leur dit qu'il faut partir faire le djihad ou je ne sais quoi en tuant le plus grand nombre de gens et ils y croient. Et c'est ça la folie. Et c'est ça le drame. C'est exactement la même démarche. Donc quand on voit Barbie, on se dit mais comment cet homme intelligent... Je vais vous donner un exemple, surtout pour les professeurs. Quand le président Cervini demandera à son grand-père, où il a le fils Cervini, il est là, tu demanderas à ton grand-père. Quand le président Cervini est allé voir Barbie avant l'audience, puisqu'on doit, il y a une formalité qui est obligatoire, on doit aller voir le détenu pour s'assurer qu'il y a bien un avocat, que c'est bien la personne qui n'a pas d'erreur judiciaire. Il arrive dans sa cellule, il lisait l'auteur latin Horace dans le texte. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait du latin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui lisent Horace dans le texte. C'était Klaus Barbie. Ça vous donne une idée du niveau de Klaus Barbie. Donc, c'est ça qui est dramatique. Se dire, cet homme intelligent, comment a-t-il pu tomber dans ce piège? Comment, d'une manière plus générale, le peuple allemand, qui était un des peuples les plus intelligents d'Europe au XVIIIe siècle, comment ce peuple a pu adhérer, pas tous, mais une grande majorité, aux idées d'Hitler? Ce qui fait qu'on n'est pas à l'abri de la réitération de ce processus. C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Oui ?
Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous arrive de repenser à ce que...
Ça m'arrive de repenser au procès. J'y repense quand je vais vous voir, quand je fais une conférence au procès Barbie, j'y repense, bien sûr. Et j'y repense chaque fois que l'on évoque les actes antisémites. J'y pense en me disant, ça a commencé comme ça. En Allemagne en 1933, dans ces années 30, ça a commencé comme ça. On vous a peut-être parlé de ce qu'on appelait la nuit de cristal, une nuit où on a pillé les boutiques juives, où on a commencé à piller les boutiques juives. Après, ça a été des panneaux à l'entrée de certains squares, à l'entrée de certaines lignes de tramway, interdits aux juifs, etc. C'est toute l'exclusion de l'individu. Donc chaque fois que l'on entend parler de ça, et malheureusement, vous le savez, on en entend parler presque tous les jours, je me dis, mais est-ce que tous ces auteurs ont vraiment une connaissance de ce qui s'est passé chez nous entre 1940 et 1945? 6 millions de personnes ont été exterminées, dont près de 400 000 dans notre région, près de 400 000 personnes dans notre région Rhône-Alpes ont été exterminées dans le cadre de ce qu'on appelait la Shoah. Vous imaginez? Et ce chiffre-là, il faut l'avoir en tête. Oui.
Comment vous avez réagi à la décision de Barbie de ne pas assister à son procès?
Eh bien, je vous l'ai dit, la décision, c'était d'abord avoir le sentiment que c'était une dérobade, qui ne voulait pas entendre les victimes. Claquemuré dans ses convictions, ça ne l'intéressait pas d'entendre le récit des victimes. Mais ma première réaction, qui était celle également du procureur général Truch, appliquons la loi, appliquons la loi, appliquons la loi. Il ne faut pas que la justice française puisse être critiquée d'avoir réservé à Barbie un sort particulier. Ça, c'est très, très, très important. Il ne faut pas que ça soit des pseudo-procès. Ce n'est pas les procès de Ceausescu, de Saddam Hussein, ou je ne sais quoi, où on fait un simulacre de procès et tout est décidé à l'avance. Il fallait vraiment que l'acte de justice soit posé dans toute sa plénitude. L'important, ce n'était pas tant le résultat. On savait qu'on allait vers une réclusion criminelle à perpétuité. Il n'y avait plus de débat. La peine de mort était abolie en France. Et les psychiatres avaient dit que Barbie était normal. Donc l'issue, c'était très prévisible qu'on ne lui accorderait pas de circonstances atténuantes. Le problème était non pas le résultat, mais la manière dont le procès allait se dérouler. Aux yeux de toute la Terre. Hein. Pensez que l'ouverture du procès Barbie, vous avez vu, c'est le seul procès dans notre histoire qui a été en mondiovision, en direct, mondiovision. Vous imaginez le nombre de pays qui ont relayé en direct l'ouverture du procès Barbie. Donc ce procès sur lequel reposaient les yeux des médias du monde entier, il fallait absolument qu'il soit irréprochable au niveau du respect des règles, du respect des droits de toute personne. Oui.
Est-ce que vous savez de la famille ou pas comme visite pour...
Alors il a eu sa fille Ute Messner qui habitait en Autriche et qui est venue à quelques reprises au cours du procès Barbie. Ça m'a donné du reste un souci puisqu'il fallait absolument protéger sa fille, donc elle est venue d'une manière tout à fait anonyme. Elle a été placée dans le sein, au milieu de la salle, au milieu des chaises des journalistes, entourée de policiers et des renseignements généraux en civil. Évidemment, ils n'apparaissaient pas comme des policiers pour la protéger. Elle est venue, en effet, elle a eu un permis de visite pour rencontrer son père, comme tout détenu a le droit d'avoir un permis de visite, comme toute personne a le droit d'avoir un permis de visite. Ah, et bien ça, on ne l'a pas demandé. Et ça, c'est une très bonne question. J'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait au fond de la pensée de sa fille. Que pouvait penser sa fille, surtout quand elle assistait à ce qu'elle a entendu. Je pense qu'elle a dû découvrir l'énormité de ce qu'elle avait commis son père. Alors, était-elle elle-même convertie au nazisme ? Avait-elle été persuadée par son père que ce qu'il avait fait était parfait, qu'il avait respecté son serment de SS ? Quand vous pensez que Barbie, alors qu'il est en Bolivie, 10 ans avant le procès, c'était en octobre 1973, est interviewé par un journaliste brésilien du journal Il Globo. Bien. Eh bien, ce journaliste lui demande « Regrettez-vous ce que vous avez fait ?» Et Barbie répond « Je suis fier d'avoir appartenu à la plus belle unité du Troisième Reich, et si je devais refaire ma vie 1000 fois, je la referais de la même manière. » Vous imaginez, 1973, aucun recul par rapport à ce qu'il a commis. Vous voyez ? Donc, que pensait sa fille, je l'ignorais. Et on ne m'a pas demandé. J'imagine qu'elle a dû avoir des sentiments divers. J'imagine. Elle nous a rendu un grand service, parce que lorsque Barbie est mort, elle a demandé à récupérer son corps. Car le jour où Barbie est mort, je vous assure que ça a été immédiatement une question, où va-t-on l'enterrer ? Parce qu'on ne voulait pas que l'on fasse du lieu de sépulture de Barbie une espèce de lieu de pèlerinage des néo-nazis. Donc sa fille est venue, on l'a avisée, elle est venue. Conformément à la loi, une famille de détenus peut récupérer le corps du détenu. Elle a demandé à récupérer le corps de son père. Elle l'a fait incinérer à Lyon. Et elle est partie en Autriche avec Lyon. Je ne sais pas du tout ce qu'elle en a fait, mais nous étions très contents que les restes de Barbie quittent le territoire français. Voilà ce que je peux dire de sa fille. Moi, je n'ai eu aucun rapport direct avec elle, si ce n'est des rapports purement, je dirais, administratifs pour organiser sa sécurité, sa venue à Lyon, mais personne n'a eu l'impudeur de tenter de lui demander ce qu'elle pouvait ressentir devant ce qui se passait. Elle s'appelait, ben non, c'était Ute Metzner, du nom de, elle était mariée, du nom de son mari. Alors, je ne pense pas qu'elle ait changé son nom de jeune fille. Oui ? Pardon ? Eh bien, sa fille, elle devait avoir dans les 40 et quelques années. Je crois qu'on fait le calcul, c'est à peu près dans ces eaux-là.
Elle est encore vivante ?
Ah, ben j'en sais rien. Moi, je n'ai plus de rapport du tout avec la famille Barbie depuis 1987. C'est bien qu'après, mon Barbie, après 91, il est mort. Après, elle est repartie en Autriche. Qu'est-elle devenue ? Est-elle vivante ? Je n'en sais rien. À ma connaissance, elle n'a jamais rencontré de journaliste. Elle n'a jamais fait de déclaration postérieurement au procès sur son père. Mais je n'en sais rien. Elle était en Autriche au moment des faits. Oui.
Vous êtes pour ou contre la condamnation à perpétuité?
Comment pouvait-on être contre la condamnation à perpétuité? Vous auriez été contre la condamnation à perpétuité? Non. Vous ne savez pas? Non, mais avec ce que vous voyez là, est-ce que ça vous paraît justifié qu'on condamne à la peine maximum quelqu'un qui a toute sa tête et qui n'a pas hésité à envoyer en four crématoire, notamment 44 enfants de 4 à 14 ans? Non ? On fait ça à votre frère ou à votre sœur. Qu'est-ce que vous attendriez de la justice ? Un gros sursis ? Une petite peine d'amende ? Dites-moi. La peine de mort, elle n'existe plus en France, depuis 1980, donc le débat n'existait pas. Et on n'allait pas tuer Barbie parce qu'il avait tué des... Il fallait le tuer combien de fois, Barbie ? L'acte de vengeance, quand on atteint un certain niveau, ça devient même ridicule. Comment pouvait-on réparer la mort de milliers de personnes par quoi ? Par quoi ? Par quoi ? Donc il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions. Pardon ? Il a, j'ai pas compris. Ah, il n'a pas choisi de le faire. Ben non, il a été endoctriné. C'est ça le problème. Ah, mais il l'a fait librement, mais il a été endoctriné. Si vous n'avez pas compris la démarche, on vous endoctrine, on vous persuade de quelque chose, le lavage de cerveau, ça existe, au point que vous n'avez plus une espèce de recul sur quoi que ce soit. Vous êtes tellement endoctriné que vous allez assassiner des gamins de 4 ans sans pouvoir avoir le moindre regret, et vous vous couchez le soir et vous dormez tranquillement comme si vous aviez... Il avait fait son devoir, il en était à faire son devoir de SS, de tortionnaire, en tuant des gens. Et on dormait tranquillement avec la satisfaction du devoir accompli. Voilà le drame. Oui. Oui, c'est le pire au niveau de la dimension, oui, au niveau du nombre de victimes, oui, oui, bien sûr, c'est le pire. Bah, le crime contre l'humanité, heureusement qu'on n'en juge pas tous les jours, c'est évidemment le pire. Jamais on a, sur l'épaule d'un seul individu, avait reposé tant de victimes, bien sûr.
Vous avez déjà vécu un autre procès que vous auriez pensé ici
Ah ben pas à ce niveau-là, non, j'ai vécu des procès avec des gens qui ont tué plusieurs personnes, des affaires de droit commun importantes, bien sûr, j'ai vécu... J'ai fait 35 ans de cours d'assises, donc j'en ai vu beaucoup de criminels. Mais non, non, à cette dimension-là, non, heureusement. Le crime contre l'humanité, heureusement, n'existe que dans des périodes extrêmes. Et dans un État qui est en paix, le crime contre l'humanité ne peut pas exister. S'il existe, c'est que l'État cesse d'être un État de droit. C'est que l'on est en présence d'une prise de pouvoir qui, encore une fois, conduit à vouloir supprimer un certain nombre de gens. Bien sûr, bien sûr.
Au début de votre métier, vous avez vu ce procès ou pas ?
Oui, c'était le début de mon métier. Je suis rentré dans mon premier poste. Mon premier poste est terminé en 1973 et le procès Barbie était en 1987.
C'était pour savoir qu'en 87, la perpétuité était
de 30 ans. Pardon, la perpétuité était la peine de sûreté était de 30 ans. C'est-à-dire que la peine de sûreté, c'est quoi ? C'est-à-dire que quelqu'un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité peut éventuellement demander sa libération conditionnelle au bout d'un délai. Et ce délai, il ne peut pas être inférieur à la période de sûreté. Donc ça voulait dire à l'époque que lorsque l'on vous condamnait à la réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté, ça voulait dire qu'il fallait au moins qu'il y ait 30 ans qui s'écoulent. Aujourd'hui, la période de sûreté, elle a été de 22 ans, puis elle est remontée à 30 ans. Voilà. On l'a réduite pendant un certain nombre d'années, et ensuite, elle est remontée à 30 ans. Ce qui fait que le faux docteur Roman, là, ce docteur, vous savez, celui qui se prétendait médecin à l'OMS, qui a tué son père, sa mère, ses enfants, sa femme, etc., dans le département de l'Ain, dont je me suis occupé, a bénéficié d'une période de sûreté seulement de 22 ans. C'était l'époque où la peine de sûreté était descendue à 22 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il en est à 25 ans de prison, une peine de manque de libération conditionnelle. Ce qu'il ne pourrait pas faire s'il était condamné aujourd'hui. Oui ?
Il ignorait complètement ou pas aujourd'hui quand il y a eu... peut-être. Non, quand on lui a dit qu'en gros, il n'y avait plus les 20 ans, la peine de, une fois 20 ans après avoir fait le procès.
Oui.
Pas le procès, mais.
La prescription. La prescription de 20 ans. Oui. Bah oui, mais il n'est pas fou. Barbie savait bien que le crime contre l'humanité était imprescriptible. Barbie était.
Oui, donc vous étiez au courant quand ce que vous avez fait.
Ah, bah bien sûr qu'il était au courant. Bien sûr. Mais il le savait bien parce qu'il était en 1946 en Allemagne et que le crime contre l'humanité était entériné par l'ONU, par les Nations Unies en 1946. Les Alliés l'ont inventé, entre guillemets, en 1945. Il a été adopté par l'ensemble des pays des Nations Unies en 1946, et bien évidemment, Barbie ne pouvait pas ignorer cette chose-là. Surtout que c'est déroulé sur le territoire allemand, le grand procès de Nuremberg. Hein, les Alliés en 1945, le 8 août 1945, créent le crime contre l'humanité, mais créent une juridiction spéciale pour juger les grands dignitaires d'asile, c'est le tribunal international militaire de Nuremberg. Militaire, hein, ce ne sont pas des jurés. Des jurés qui siègent, un tribunal militaire international formé par des représentants des pays alliés. Voilà. Et Barbie, bien sûr, savait que le crime contre l'humanité existait.
Oui. Donc, Barbie a été retrouvée par les Klarsfeld, c'est ça?
Oui, Barbie a été retrouvée par les Klarsfeld. C'est-à-dire que Barbie se trouve en Bolivie, sous l'identité de Altman. Vous avez vu l'allure qu'il avait prise. Et ce sont Serge et Beate Klarsfeld qui, à partir des photos de Klaus Barbie, et en remontant les chevaux, ont pu, bien sûr, d'abord établir qu'il était parti en Amérique du Sud, et qu'il était vraisemblablement en Bolivie, et qui l'ont, en effet, identifié formellement. Ils l'ont identifié formellement. Il y a eu ensuite cette expédition avec le journaliste Ladislas de Hoyos, journaliste à TF1, première chef de télé, comme on disait à l'époque, qui a interviewé Barbie et qui l'a piégé au cours d'un interrogatoire, qui a interviewé Altman, mais qui l'a piégé au cours d'un interrogatoire où, au détour d'une phrase, Barbie a bien reconnu qu'il était le patron de la Gestapo de Lyon. Donc on a eu à ce moment-là la certitude que Altman et Barbie étaient au courant. Et comme Barbie restait en Bolivie, ils ont tenté, avec un opposant au régime qui était parti en Amérique du Sud, combattre dans les camps de Che Guevara, qui s'appelait M. Régis Debray, un professeur de lettres français, qui était parti combattre, qui avait été arrêté, qui avait été incarcéré, qui avait été libéré à la suite d'une campagne internationale conduite par le philosophe Jean-Paul Sartre, et qui était opposant au régime, qui était parmi les opposants, bien sûr, de soutien au régime des colonels. Donc à partir de là, ils ont tenté d'organiser un enlèvement de Klaus Barbie, c'était en 1971, pour le remettre à la justice française. Cette tentative d'enlèvement a fait flop parce que Barbie n'était pas au rendez-vous, il y a eu un certain nombre de... Enfin, on n'était pas là où on pensait le cueillir, et ça a raté. Et c'est ainsi qu'il a fallu attendre un régime démocratique qui succède au colonel en 1983 pour que l'on puisse obtenir la remise par la Bolivie de Barbie à la France. Mais tout ça, bien sûr, ça a été, les Klarsfeld ont été vraiment la cheville ouvrière. Et les Klarsfeld nous ont permis de coincer Barbie pour Izieux, parce que Barbie disait Izieux, je connais pas. L'arabe des enfants d'Izieux, je connais pas. Malheur pour eux, Serge Klarsfeld retrouve dans les archives un télégramme officiel signé par Barbie lui-même, dans lequel il rencontre de l'arabe des enfants d'Izieux à sa hiérarchie à Paris. Donc là, on a dit, mais monsieur Barbie, vous avez le culot de nous dire pourquoi vous n'êtes pas au courant d'Izieux. C'est vous-même qui avez signé le télégramme qui rend compte à votre hiérarchie à Paris que vous avez mené l'opération des 44 enfants par lequel vous dites que vous les mettez en route en direction de Nancy. Les Klarsfeld ont un rôle capital dans l'arrestation de Barbie et dans la réunion des preuves pour le procès, bien sûr.
Et vous les avez connus?
Ah, je les connais très bien, oui, bien sûr. Je les ai connus au moment du procès, puis j'ai eu voir.
Ils sont jamais venus ici.
Oui, bien sûr, je les connais. Ben oui, ce sont des gens importants et qui nous ont rendu beaucoup de services. On n'est pas propriétaire de la justice. La justice, c'est la propriété de tous les citoyens, quels qu'ils soient. Nous sommes les serviteurs de la justice. Mais si on ne les avait pas mûrs, on aurait eu beaucoup de mal à réunir un certain nombre de preuves. Alors, il y en avait au fond, puis après vous, mademoiselle. Oui.
Vous avez parlé de complicité de crime contre l'humanité.
Oui.
C'est quoi la différence avec crime contre l'humanité?
Alors, complicité de crime contre l'humanité, c'est lorsque vous apportez votre concours, votre collaboration. Vous voyez? et on a poursuivi en France pour complicité de crimes contre l'humanité le secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui s'appelait M. Maurice Papon, qui était un collaborateur du préfet de Bordeaux pendant la dernière guerre, et qui acceptait de signer des bons de réquisition pour l'organisation de convois ferroviaires en direction de Paris, en direction de Drancy. Donc il n'a pas lui-même déporté, il n'a pas été comme Klaus Barbie à décider de la déportation, mais il a apporté sa contribution à la réalisation de la déportation, puisqu'il a réquisitionné, de par ses fonctions préfectorales, les trains qui conduisaient ces malheureux vers... Donc c'est la complicité. Quand vous commettez un vol se commet, bon, il y a l'auteur principal, le voleur. Si le voleur a commis un vol à main armée avec un revolver et que quelqu'un en connaissance de cause va prêter le revolver, celui qui a prêté le revolver va être poursuivi pour complicité de vol à main armée. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'aide ou l'assistance à l'auteur principal qui a commis l'acte principal. C'est clair ? Bon. Oui ? Oui, les États-Unis ont reconnu qu'ils avaient protégé Klaus Barbie. Il y a eu un envoyé du gouvernement américain qui est venu présenter les regrets de l'État américain à l'époque. Ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que lorsque les Américains retrouvent Klaus Barbie, c'est un petit peu compliqué, mais vous l'apprendrez plus tard, on est au début de ce que l'on appelle la guerre froide. La guerre froide, c'est la guerre qui va opposer les États-Unis à l'Union soviétique. Et qu'à la fin du Second Conflit mondial, la crainte des États-Unis, c'est que l'Union soviétique prenne le contrôle de l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Donc les Américains ont besoin de gens qui connaissent parfaitement les réseaux communistes en Europe de l'Ouest. Or, les gens de la Gestapo, qui pourchassaient également les communistes, avaient une connaissance parfaite des réseaux communistes. Donc pour la France, pour toute cette partie de la France, Klaus Barbie était très précieux. Donc les Américains, eh bien... Parce qu'à l'époque, leur souci, c'est encore une fois de contrecarrer toute tentative de l'Union soviétique de prendre le contrôle de l'Europe de l'Ouest, vont embaucher l'ancien nazi. On a retrouvé des fiches de paye de Klaus Barbie. Klaus Barbie est embauché d'une manière tout à fait officielle. Et il va fournir des renseignements pendant 3 ou 4 ans, jusqu'au moment où les Américains n'en ayant plus besoin, les choses ont évolué. Et bien, en remerciement de ses bons et loyaux services, vont permettre son exfiltration d'Europe et son départ vers l'Amérique du Sud. Vont favoriser son impunité. Et ils ont présenté en effet leur regret lors du procès. Les choses ont été très claires là-dessus. Alors la loi prévoit que le complice peut être puni de la même peine que l'auteur principal. Donc ça veut dire que c'est le juge qui apprécie s'il faut prononcer la même peine ou s'il faut prononcer une peine inférieure. Mais la loi nous permet de condamner le complice de la même manière. Quand vous avez un complice qui va persuader quelqu'un de commettre un crime, vous voulez descendre quelqu'un, vous voulez exécuter quelqu'un, vous allez demander à un tueur à gages de le tuer à votre place. L'auteur principal du meurtre, c'est le tueur à gages, celui qui a tué. Mais le complice est aussi responsable, puisqu'il est allé recruter quelqu'un, lui a donné des sous pour aller tuer. C'est pour ça que la loi permet dans ce cas-là, et dans tous les cas de complicité, de punir de la même peine. Donc c'est le juge qui apprécie, comme on dit, le degré de complicité, le degré d'implication du complice dans la commission de l'acte. Oui ?
Est-ce qu'il y a aussi d'autres rendements de...
Un peu plus fort.
Est-ce qu'il y a eu d'autres jugements de grande unité nazie ?
Alors, en France, il n'y a pas eu d'autres... Il y a eu alors, des jugements de... Il y a eu, à la fin de la guerre, des jugements de criminels nazis, bien sûr, en France. Ceux qui n'avaient pas pu partir au moment de la libération, pour lesquels on avait pu mettre la main dessus. Il y a eu un autre grand criminel nazi qui a été poursuivi, mais lui, il avait disparu en Allemagne, on ne l'a pas retrouvé au moment de son procès. C'était M. Alois Brunner, qui était un officier nazi de la Gestapo de Paris, auquel on reprochait d'avoir arrêté des enfants juifs, un peu comme l'arabe du Veldiv, mais en plus limité, et de les avoir, déportés. Il a donc été condamné, lui aussi, à la réclusion criminelle à perpétuité, mais encore une fois par contumace, et depuis il est décédé. Donc il n'y a pas eu, contre d'autres dignitaires nazis, d'autres poursuites pour crimes contre l'humanité. Par contre, il y a eu un autre procès pour crime contre l'humanité contre un Français cette fois-ci qui était le patron de la milice dans notre région de Lyon, qui s'appelait M. Paul Touvier, qui s'est rendu coupable d'arrestation également et d'exécution de gens parce qu'ils étaient juifs. Il a été condamné également à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce n'était pas à Lyon, c'était à la cour d'assises des Yvelines à Versailles. Voilà. Oui.
Est-ce que c'est les témoignages qu'il y a eu lors du procès, est-ce que c'est la cour d'assises qui a demandé à ce que des personnes témoignent ou c'est eux qui sont
Non, on a choisi, bien sûr, il y aurait eu des centaines, il y a eu près de 100 témoins, mais il y en aurait eu beaucoup plus. Des tas de gens voulaient témoigner. On a donc pris des gens, on a choisi des gens, nous, par le ministère public, c'est le procureur qui décide de faire entendre des gens, ou la défense qui peut demander de faire entendre des gens. On a choisi des gens qui avaient été victimes directement de Klaus Barbie. Vous voyez, Mme Cadoche-Lagrange, vous l'avez entendu, c'est une gamine de 13 ans, elle est interrogée directement par Klaus Barbie. On a donc essayé de trouver des témoignages de gens qui pouvaient directement expliquer ce qu'ils avaient subi de la part de Klaus Barbie. Et on a choisi également des témoignages de gens qui permettaient de faire comprendre aux jurés ce qu'était la problématique du crime contre l'humanité, ce qu'était l'organisation nazie. Les jurés, on ne les connaît pas, ils sont tirés au sort. Ils n'avaient pas tous des cours d'histoire. Les jurés, on ne sait pas quel est leur niveau. Est-ce qu'ils connaissaient le Second Conflit mondial? Est-ce qu'ils connaissaient l'organisation nazie? Est-ce qu'ils connaissaient la Gestapo? Est-ce qu'ils connaissaient... Donc il fallait leur expliquer tout ça. Donc on a dû prendre des témoins dits d'intérêt général pour leur faire une sorte de leçon d'histoire avant qu'on entre dans le vif du sujet, pour qu'ils comprennent bien ce qu'était la répression allemande, nazie, quel était le rôle de Klaus Barbie. Les jurés, on leur fait un cours. La cour d'assises, c'est un peu de la pédagogie. On leur explique quel est l'individu qu'ils vont avoir à juger et on leur apporte la preuve, noir sur blanc, c'est nous, ministère public, qui avons la charge de la preuve, c'est la partie poursuivante qui a la charge de la preuve, on doit expliquer au juré, voilà les preuves que nous avons absolues que ce monsieur est bien coupable du crime qu'on lui reproche.
Dans tous les cas, vous avez dû écouter les autres...
Tous les témoins ont été entendus pendant l'instruction, le juge d'instruction a entendu tous les témoins qui souhaitaient être entendus, on a un dossier d'instruction de plusieurs milliers de cotes. Si vous allez un jour le voir aux archives du Rhône, où il a été déposé, vous verrez l'importance de ce dossier qui est énorme. Oui.
Et ils racontaient quoi, les témoins qui sont passés grâce à la défense?
La défense a essayé de citer quelques témoins, dont un témoin assez lamentable qui appartient à la Waffen-SS française. Vous savez qu'il y a une Waffen-SS composée de Français qui est venue donc raconter que Barbie n'était pour rien, que ce n'était pas lui responsable, etc., etc., qu'il avait fait que servir son chose. Il y a eu très peu de témoins, très peu de témoins. Ou des témoins qui sont venus dire des choses qui n'avaient rien à voir, car la technique de Metvergès, c'était de dire « Vous, Français, vous, justice française, vous n'avez pas à juger Klaus Barbie, vous êtes illégitime à le juger, car regardez ce que la France a fait au XIXe siècle dans les colonies françaises. Regardez ce qu'était le colonialisme, et vous êtes mal tenu de venir reprocher à Barbie. » Voilà. Donc c'était un peu une tentative, comme on dit, d'évitement. On a parlé de défense de rupture, lorsque l'on parle dans notre technique juridique des modes de défense. Donc Barbie, on n'a pas défendu Barbie en parlant de sa personnalité. On est venu dire, vous êtes un Français, circulez, il n'y a rien à voir. Et Barbie a dit, le dernier mot qu'il a dit avant le verdict, c'était la guerre, mais la guerre est finie. Ça veut dire, parce que la guerre est finie, circuler, il n'y a rien à voir. La guerre permettrait tout. Dans l'esprit de Barbie, la guerre permet tout. Et quand la guerre est finie, voilà. Et ça, c'est non. Non, la guerre ne permet pas tout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une cour pénale internationale qui siège à La Haye et qui prévoit que dès l'instant où un guerrier dépasse ce qui est tolérable, la guerre, c'est vrai, a permis de tuer, donné à des soldats. Mais les soldats, parce qu'ils sont engagés dans une guerre, ne peuvent pas commettre tout et n'importe quoi. On ne peut pas abattre des prisonniers, on ne peut pas piller des villages, on ne peut pas violer les filles d'un village que l'on a pris, on ne peut pas commettre un certain nombre d'actes qui ne correspondent en rien à la conduite de la guerre. Oui.
Comment l'avocat Klaus Barbie l'a défendu ?
Bien, comme je viens de vous le dire, en évitant de parler du cas de Klaus Barbie, mais en détournant l'attention et le propos sur le comportement de la France au cours des siècles passés.
Et du coup, vous en avez pensé quoi de cette défense ?
C'était une méthode, c'est la liberté de la défense. Je regrette parce qu'on aurait pu dire autre chose. Il y avait cette... Ah, il est engagé par l'accusé. On n'a pas le droit de... C'est pas nous qui dictons à l'accusé la personne qui va le défendre. Il l'a choisi. S'il ne peut pas payer... Pardonnez-moi. S'il ne peut pas payer, on le donne gratuitement. S'il peut payer, il choisit l'avocat qu'il veut. Alors, qui a payé l'avocat de Barbie? Ça, c'est un grand sujet. Un grand, grand sujet. Oui.
Mais les jurés, ils ont une certaine haine, non, pour des personnes comme ça.
Mais il ne faut pas avoir de haine quand on est juré. On leur demande d'être impartial. Et bien sûr que les jurés ont dû être très sensibles en entendant tous ces témoins. Mais le jour où vous serez juré, on vous dira surtout, mettez la haine dans votre poche. Essayez d'écouter d'une manière la plus impartiale qui soit les arguments d'accusation, les arguments de la défense, et en votre âme et conscience, vous essayez de prononcer la peine la plus juste. Mais bien sûr que les jurés ont été bouleversés. Je me souviens de certains témoignages des jurés auxquels on dit surtout ne trahissez pas par votre comportement extérieur ce que vous pouvez penser, était à la limite d'éclater en sanglots. Bien sûr. Bien sûr. Oui.
Comment est-ce que les magistrats sont sélectionnés pour
ils ne sont pas sélectionnés, c'est-à-dire que l'on va demander au président de la cour d'assises habituelle de prendre l'affaire. On vous demande de la prendre, vous n'êtes pas. Il y a, pour tout vous dire, pas de secret. On avait choisi, avait été primitivement choisi, parce que le président Servigny n'était pas encore à Lyon à ce moment-là, un autre magistrat. Et cet autre magistrat a eu la très grande honnêteté de dire « J'ai dans ma famille des membres de la résistance et je ne voudrais pas qu'on croie que ma décision pourrait être induite par l'appartenance de membres de ma famille à la résistance. » Et il s'est récusé. J'ai trouvé que c'était très bien comme ça. C'était très bien comme ça. Mais il n'y a pas de sélection. On n'a pas sélectionné les magistrats sensibles à quoi que ce soit. Pas du tout. Oui.
De même manière, certains jurés sont retirés de l'affaire.
Pas du tout. Mais vous ne pouvez pas vous retirer de l'affaire. Être juré, c'est obligatoire. Quand vous êtes juré, vous êtes. Comment ça se passe? Chaque année, dans chaque commune de France, on tire au sort un certain nombre d'électeurs âgés, comme je vous l'ai dit, de plus de 23 ans, inscrits sur liste électorale. À partir de là, nous avons une liste annuelle de plusieurs centaines de candidats jurés, de jurés potentiels. Et au début de chaque session d'assises, on tire sur cette liste départementale un certain nombre de jurés. Plus, évidemment, qu'il nous en faut, etc. Ces jurés sont convoqués le premier jour de la réunion de la cour d'assises pour chaque affaire. Et on va donc tirer au sort le nombre de jurés. À l'époque, c'était 9 jurés. Donc on tire au sort 9 jurés. Et sur ce tirage au sort de 9 jurés, le ministère public a droit de récuser 4 jurés, avait droit de récuser 4 jurés et la défense 5 jurés. Nous, au niveau du ministère public, on avait pris la décision de ne récuser aucun juré, pour justement encore éviter la critique de dire vous avez choisi des gens. De reste, on ne savait pas du tout à qui on avait affaire. Maître Vergès a récusé 2 jurés, je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne pense pas qu'ils savaient plus que nous quel était le passé de ces jurés. C'est son droit le plus strict, puisque la récusation ne doit pas être motivée, on n'a pas à dire pourquoi on récuse. Voilà. Mais sinon, c'est le hasard. C'est le hasard. Et les jurés ont l'obligation de siéger. Ils ont l'obligation de siéger. Ils ne peuvent pas dire ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas. Ils ont l'obligation de siéger.
C'était pas dans le sens ça m'intéresse pas, c'était plus dans le sens non impartial que
la partialité. Alors, le hasard a fait, on s'en est intéressé après, qu'aucun des jurés n'avait vécu la guerre. Le plus âgé avait 5 ans en 1940. Le plus âgé. La moyenne d'âge était de 39 ans et demi. Donc, aucun juré n'avait vécu la guerre. Mais on aurait pu avoir des personnes âgées, hein, bien sûr. Mais ça, alors la défense, à ce moment-là, pensait que ces personnes avaient pu être confrontées à la guerre, elle avait le droit de les récuser. Mais autrement, c'est le hasard absolu. Il n'y a eu aucune enquête. C'est pas comme aux États-Unis. C'est aux États-Unis où il y a eu une véritable enquête, mais très, très détaillée sur le juré, sur ce qu'il pense, sur sa religion, sur tout ce que vous imaginez. Pas du tout en France. En France, on demande juste le casier judiciaire pour s'assurer que le juré n'a pas, évidemment, lui-même été déjà condamné à des peines importantes. Et puis, certaines professions ne permettent pas d'être juré. des professions ben, comme celle de préfet, comme celle de député, ou de ministre, enfin, ou de militaire en exercice, ou de magistrat en exercice. Il y a une liste de professions qui ne permettent pas, tant qu'on exerce la profession, d'être juré.
Est-ce que c'est vrai que Klaus Barbie a industrialisé les mains des personnes ?
Il a
industrialisé.
Industrialisé, je précise, parce que...
Bah, avec les cheveux des femmes, il faisait du...
Ah non. Ah non, Klaus Barbie n'a pas industrialisé lui-même, c'est l'industrie, elle est à Auschwitz. On récupérait tout à Auschwitz. Quand vous allez visiter Auschwitz, vous voyez en effet des sacs de cheveux, puisqu'on utilisait tout. On utilisait les... On enlevait les prothèses en or des gens qui ont passé à la chambre à gaz, on utilisait tout. Et c'est exact, oui. Mais Klaus Barbie, non, mais Klaus Barbie n'était pas Auschwitz. Klaus Barbie, il a organisé les arrestations et formé des convois pour Auschwitz. Il a participé à la solution finale en étant le fournisseur, un des fournisseurs des camps d'extermination. Mais Barbie n'a jamais mis les pieds à Auschwitz. Il n'était donc pas mêlé à cette affreuse récupération, y compris des cheveux. Alors, si les jurés sont dans la capacité de venir, on peut les excuser. C'est pour ça qu'on nomme des jurés supplémentaires. Imaginons qu'un juré tombe malade, le procès dure un mois et demi, ou qu'il a un deuil dans sa famille, ou qu'il a un problème important qu'il ne puisse pas vivre. Il faut bien qu'on puisse le remplacer. Et si vous avez remarqué, derrière les jurés, il y en avait derrière, donc jurés un peu plus haut sur votre fiche. C'était ce qu'on appelle les jurés supplémentaires, des jurés qui n'ont pas délibéré, mais qui étaient là, prêts à remplacer les jurés titulaires, si ceux-ci avaient été soudainement empêchés, ce qui n'a pas du reste été le cas pendant tout le procès. Mais votre question est tout à fait pertinente. On prévoit en effet la possibilité de pouvoir remplacer un juré pour tel ou tel motif. Oui. Non, tout ce qui se dit pendant une audience est couvert par ce que l'on appelle l'immunité. Une question est très bonne. Imaginons un avocat qui se mette à faire de la propagande de pro-nazi ou qui tienne des propos antisémites pendant une plaidoirie. Eh bien, tout ce qui se dit dans le cadre d'un procès, c'est tout le problème de la liberté de parole qui a prévalu sur justement ces interdictions. Il y a ce qu'on appelle l'immunité. Entre le moment où le président dit l'audience est ouverte et le moment où le président dit l'audience est clôturée, eh bien, pendant tout ce moment-là, c'est ce que l'on appelle le moment du débat judiciaire, et les propos qui sont tenus pendant le débat judiciaire sont couverts par l'immunité. Voilà. Oui ? Est-ce que vous avez encore à poser ? Non ? Question rentrée. Est-ce que j'ai répondu à... Oui ?
Du coup, vous avez dit qu'un des juges avait refusé de prendre l'affaire en main.
Oui.
Et du coup, même aujourd'hui, des juges ont le droit de refuser.
Absolument.
De
prendre l'affaire. Bah, si le juge doit juger quelqu'un qu'il connaît, heureusement qu'il va se déporter. Si le juge va juger quelque chose qu'il estime, dont il estime que ce n'est pas grave ou je ne sais quoi, l'honneur d'un juge, c'est de se dire « Non, je ne prends pas l'affaire, je me déporte. » Bien sûr. Et à longueur d'année, ça nous arrive lorsque l'on doit juger des... dans une affaire où quelqu'un, soit comme auteur, soit comme victime, vous connaissez pas pour l'affaire. Hein, c'est ce qu'on appelle l'impartialité. L'impartialité du juge, c'est non seulement l'impartialité subjective qu'il ressent, mais l'image d'impartialité qu'il doit donner. Le juge ne doit pas être suspecté d'avoir son idée préconçue parce qu'il est proche de telle ou telle partie. C'est important. Oui.
Comment que Barbie a réussi à faire des enfants alors que dans les SS, il n'y avait que des hommes?
Ah, mais les SS avaient le droit de se marier, cher monsieur. Les militaires ont le droit de se marier. Pendant longtemps, l'armée française n'était composée que d'hommes, et il y avait bien des femmes. Voilà, écoutez, merci de votre attention.